102.1. Gravel.
C'est toi, Denis.
Dans le retour. Gravel dans le retour, yes.
102.1. Yaman. Mon Dieu, c'est presque insultant d'entendre cette musique aux tonalités de reggae pendant que des rafales de vent à 60 km/h balaient la poudrerie. Et ce n'est qu'un début parce qu'en deux temps, 5 cm de neige ce soir et au cours de la journée de demain, la température est à la baisse pour atteindre moins 16 pendant l'après-midi. Les 24 prochaines heures, en veux-tu une froide? Ouais, on se lance là-dedans. À deux pieds et dans la circulation, j'imagine, ça occasionne quelques problèmes.
Oui, bien là, ça commence à être quand même difficile sur les routes. Là. C'est les ralentissements habituels, mais ils sont quand même intenses. Capitaliste, auteur Robert Bourassa. Robert Bourassa, direction nord, ça se passe entre Charest et la capitale, assez dense. Il y a quelques ralentissements à prendre en compte aussi si vous êtes sur la capitale, direction ouest, auteur Laurentienne. Il y a des ralentissements inhabituels, sur Henri IV Nord, entre Charest et la capitale en ce moment. L'entrée des ponts, direction sud, c'est quand même difficile que vous arriviez de Duplessis ou d'Henri IV. Là, à partir de Versant Nord, on sent les ralentissements. Plus haut, dans le coin de Shannon, devant la base militaire, route de la Bravoure, difficile. Route de Fossambeau, entre Des Érables et de la Jacques-Cartier, ralentissement. Et la 20, direction ouest, c'est surtout entre la route du président Kennedy et Chemin des Îles.
It's the end of the CAQ as we know it, and I feel fine, comme le disait presque la vieille tune de R.E.M. Il y a des gens qui quittent le bateau de la CAQ. Ça a été le cas de Geneviève Guilbeault en fin de semaine, de Sonia Lebel aujourd'hui. Mm-hmm. Là, on est correct. Dans les deux dernières heures, il n'y a pas personne qui a annoncé qu'il partait.
Il y a comme quelques mouvements. Tu as des gens qui quittent, tu as des gens qui réfléchissent, puis tu as des gens qui appuient. Puis tu as une personne qui réfléchit à son avenir et à la chefferie. Ça fait le portrait actuellement de ce qui reste de la CAQ.
On va aller jaser des derniers développements avec Antonin Iacarini, analyste politique que vous pouvez entendre dans le caucus à tous les jours à Boulevard 102.1. Allô, Antonin?
Allô?
Est-ce qu'on va entendre le chien qui zigne après ta patte ou tu vas réussir à t'en sauver?
Écoute, je faisais une autre radio dans une autre région il y a quelques instants et c'est le Festival des livraisons chez nous. Vous savez que c'est la Saint-Valentin hein, bientôt.
Ah-ha. Mais là, c'est dans trois semaines, là?
Absolument, mais mon chum est parti à Montréal pour la semaine, puis il m'a dit « ouvre pas les boîtes qui arrivent à la maison cette semaine. » Oh! Mais là, j'en reçois beaucoup, là, je vous dis, là, je pense que je vais être gâtée cette année. Fait que là, mon chien capote à chaque fois qu'il s'assonne à la porte, ça devrait aller là, coucher à terre à côté de moi.
Fait que t'as un chien qui zigne après ta patte et qui veut désespérément de l'attention. C'est quoi le nom de ton chien, Bernard?
Oh, ça, c'est méchant. Non, c'est Ozzy, le nom de mon chien. Là. Okay. C'est pas le nom d'un ministre caquiste ou d'un politicien.
Anto, je veux t'entendre d'abord sur Geneviève Guilbeault. Sur l'échelle entre 0 et 10, à quel point tu as été surpris de son annonce?
J'ai été surprise genre à 8. Tu sais, là, les autres chroniqueurs vont dire « je le savais, c'était évident, elle ne pouvait pas ». Sérieusement, Geneviève Guilbeault, c'est une femme qui avait des ambitions.
Oui.
Elle était vue comme une successeure potentielle. Moi, il y avait le magazine L'Actualité, là, il y a à peu près un an et quelques, là, qui avait signé une avec elle sur la page couverture, jusqu'où ira Geneviève Guilbeault. Fait que n'importe qui vous dit là, que c'était évident qu'elle n'allait pas se représenter, je m'excuse, il raconte des conneries. Geneviève Guilbeault, c'est des ambitions freinées hein, parce qu'elle a été une superstar. Elle est au cœur de la victoire de la CAQ en 2018 là, parce que c'est à l'élection partielle dans Louis-Hébert 2017 que la série de bonnes nouvelles de la CAQ a commencé. Parce qu'avant ça, je vous dis, ça n'allait pas très bien. Ils avaient perdu Gérard Deltel, élection partielle dans Chauveau qui avait été perdue, gagnée par le Parti libéral. Ça allait pas très bien à la CAQ. Puis vraiment, la victoire de Geneviève Guilbeault, là, ça a été comme le début. Pendant le premier mandat, elle a été très populaire. Et Geneviève Guilbeault, les gens ont oublié, là, parce qu'on reçoit plein de textos, puis le monde nous dit « bon débarras, puis c'est épouvantable, puis Geneviève Guilbeault ». Mais elle a été vraiment une superstar. Elle allait quelque part dans un marché public ou dans un comté d'un député. Là, tout le monde se prenait en selfie avec elle. Tout le monde, les députés étaient très contents de l'avoir dans leur circonscription.
Avant qu'elle traite les jeunes dociles, là, tout le monde était bien à l'aise avec ce que Geneviève Guilbeault faisait puis disait. Là.
La docilité, ça a marqué vraiment beaucoup. Les gens. C'est une citation très, très marquante de Geneviève Guilbeault. Mais c'est surtout, bon, évidemment, le retrait du troisième lien et après ça, qu'on l'a envoyé défendre que finalement, on a besoin du troisième lien alors qu'on vous a convaincu qu'on n'avait plus besoin. Ça a été terrible. Et la crise à la SAC, évidemment. Que moi, Personnellement, je ne pense pas que Geneviève Guilbeault est la grande responsable du fiasco informatique et financier. Mais je pense que, en fait, ce préavis de blâme qu'elle a reçu la semaine passée, qu'on a vu dans les journaux, c'est sûr que ça allait être un boulet à sa cheville.
Moi, c'est ma
théorie. Parce qu'elle n'a pas très bien fait en commission, là.
Moi, ma théorie, c'est que son avis de blâme, son préavis, parce que, tu sais, dans les médias, ça mentionnait que c'était pris un avocat à l'externe pour être capable de se défendre de tout ça. J'ai l'impression que l'avocat, il a comme fait... Je suis désolée, mais on ne pourra pas te sortir de ce foutoir-là. Fait qu'elle a dû se dire, je vais m'éloigner du feu, les gens vont m'oublier, je reviendrai plus tard.
Bien, ça peut faire partie des raisons pour lesquelles... Parce qu'évidemment, bon, Geneviève Guilbeault, elle nous a dit que c'était pour ses enfants.
Ben, c'est pas ils vont où en voyage avec leur père. Fait que j'ai de la misère à la croire un peu.
C'est ça, là. Il faut qu'elle soit un petit peu plus présente. Cela dit, on fait des blagues, mais c'est vrai qu'en politique, on met souvent ce genre de décisions-là sur le dos de la famille. Ça fait partie de la réflexion. Et quand ça va bien, puis qu'on pense qu'on va gagner la prochaine campagne électorale, quand les choses vont bien, bien, c'est sûr, c'est pas qu'on aime moins nos enfants, mais tu mets tout ça dans la balance. Quand ça se met vraiment difficile, que aussi, elle a sûrement sondé ses appuis dans les dernières semaines, de voir qu'il n'y avait pas un engouement autour d'une candidature potentielle, bien, ça alimente aussi la réflexion. Elle dit que ça fait longtemps qu'elle avait pris sa décision.
Crois-tu à ça?
Le début d'année a confirmé.
J'ai l'impression que personne ne la croit là, quand tu as dit que sa décision est prise depuis l'automne.
Ben, moi non, OK? Puis je dis pas, tu sais, je prends la parole des gens de manière générale. Je pense que ça faisait partie de ses réflexions. Là. Tu regardes toutes tes options. Mais est-ce qu'elle était décidée puis qu'elle s'est dit, je vais attendre là, telle date de janvier pour l'annoncer? Non, je pense que, comme M. Legault, avant les fêtes, tout le monde disait, on va attendre de voir comment ça se passe en début d'année. Puis on sentait pas un engouement autour de sa candidature. En tout cas, dans le caucus, là, tu sais, les appuis, les députés, le staff, disons que les gens ne l'encourageaient pas beaucoup à se lancer.
Qu'est-ce qui est arrivé à l'interne pour qu'il y ait autant d'irritants entre Geneviève Guilbeault, sa gang, et mettons le reste de la CAQ? J'ai comme de la misère à comprendre ce bout-là de l'histoire.
Bien, il y a des enjeux d'affinité personnelle, là, ça, que, dans lesquels je n'embarquerai pas. Mais du côté des dossiers, c'est sûr que la fin du projet de troisième lien, ça ne s'est pas passé très, très bien à l'interne. OK? Il y a des gens qui l'ont quasiment appris, tu sais, genre quelques heures avant l'annonce, alors que ça avait des impacts importants. Tu ris tout le temps de Bernard Drinville, mais mets-toi à sa place quelques instants pour sa circonscription de Lévis, d'apprendre de se faire mettre un peu devant le fait accompli. Et c'était pas une décision que Geneviève Guilbeault a prise seule. Là, c'est une décision du cabinet du premier ministre. Puis pendant l'élection partielle dans Jean Talon, le candidat du PQ nous avait même dit que ça avait été discuté pendant la campagne électorale de 2022. Donc, elle a pas pris cette décision-là seule. Mais après ça, la manière dont ça s'est passé, je pense qu'il y en a plusieurs que ça a refroidi. Puis aussi, tu sais, dans le fond, quand tu veux devenir chef d'un parti, il faut que tu aies cultivé le relationnel pendant longtemps avant. T'sais, des fois, tout à coup, il y a une course à la chefferie qui se déclare, puis là, tout le monde nous aime. Là. Tu te fais appeler, là, puis veux-tu prendre un café? Ben, c'est parce que tu sais, si tu m'as jamais parlé de ta vie, là, tout à coup, tu vas aller prendre un café avec moi, c'est parce que tu sais, je vois clair dans ton jeu. Mm-hmm.
Oui, puis c'est peut-être la portion qui est la plus politique interne de toute cette histoire-là. Moi, je suis déçu parce que j'ai l'impression que pendant la course à la chefferie, justement, ces irritants-là auraient peut-être éclaté un peu à la surface. Puis je pense que Geneviève Guilbeault aurait donné un bon show en essayant de se défendre de tout ça.
Oui.
Je trouve que la course vient de devenir un petit peu plus plate, là.
Bien, on verra parce que, en fait, la course n'est même pas commencée. On ne sait même pas les règles de la course à chefferie. D'ailleurs, je ne sais pas ce que le parti attend pour les dévoiler. Là, ça brette en titi. Puis ça laisse place à plein de spéculations. Puis les ministres qui pensent se présenter, qui devront laisser leur poste, bien, ils veulent savoir, tu sais, je laisse mon poste, mais c'est quoi les conditions de la course avant de me lancer. Puis je suis d'accord avec toi, Denis. Geneviève Guilbeault, les gens ne réalisent peut-être pas à quel point elle n'était pas toujours dans des relations très positives avec le cabinet du premier ministre. Donc, j'ai l'impression qu'elle aurait pu être du genre à se défendre très vigoureusement de l'histoire de la SAC, par exemple. Elle a un petit peu lancé des gens sous l'autobus, mais de manière polie. Peut-être que ça aurait été moins poli pendant la course à la chefferie.
J'ai l'impression qu'elle ne sera pas disparue très longtemps du paysage politique. C'est un feeling personnel. Puis j'ai l'impression qu'elle s'en va pas faire des panels à LCN ou à Radio-Canada. Là. J'ai l'impression que sa carrière politique est loin d'être terminée. Feeling.
Ben, écoute, moi, je pense qu'elle ne disparaîtra pas de l'espace public. Geneviève Guilbeault, peut-être qu'elle va devoir se laisser un petit temps pour que les gens s'ennuient un petit peu. Des fois, Quand tu finis un parcours politique, les gens retiennent surtout le négatif puis la fin. Mais quand tu quittes et le temps passe un peu, bien, on prend le bilan des politiciens plus dans leur globalité. Tu sais, M. Legault aussi, ça a fait ça la semaine passée. Il n'y avait rien de bon que M. Legault pouvait faire. Tout ce qu'il disait, c'était négatif. Tout le monde l'envoyait promener. Mais une fois qu'il annonce sa démission, déjà, les gens faisaient un bilan un peu plus large. Et quand le temps passe, écoutez, là, Mme Marois, Jean Charest, ils sont plutôt aimés là, présentement, alors que c'était pas toujours le cas quand ils étaient en poste.
Sonia Lebel, même question, entre 0 et 10, ton taux de surprise, mettons, de l'annonce d'aujourd'hui?
Zéro?
OK, bon, d'accord.
Sonia Lebel, c'était pas une politicienne née hein, comme telle. Je pense pas que Sonia Lebel, de 9 ans et demi, disait « Moi, je vais être première ministre quand je serai grande. »
Non, je pense qu'elle voulait être avocate.
Exact. Elle voulait être avocate et elle le faisait très bien. Elle a été amenée en politique. D'ailleurs, elle aussi fait partie de la séquence d'événements positifs avant la victoire de la CAQ. Hein. Ils l'ont amenée comme staffer. Elle est rentrée comme, je pense, directrice de cabinet adjointe ou quelque chose comme ça, ou conseillère stratégique au cabinet de M. Legault. Hein, en 2017, dans les mêmes eaux là, que la campagne électorale gagnante de Geneviève Guilbeault. Je pense pas que c'est quelqu'un qui est très assoiffé de pouvoir, Mme Lebel. C'est quelqu'un qui est très fier du travail qu'elle a accompli, je pense, comme ministre. Premièrement, elle a été ministre de la Justice, ce qui était très naturel pour elle, et elle a été amenée au Conseil du Trésor, ce qui n'était pas nécessairement quelque chose, je pense, qu'elle avait sur son radar quand elle est partie en politique. Et elle en a accompli beaucoup. Et je pense que c'était pas une fin en soi pour elle de devenir chef, même si pas mal de monde la voyait dans ce poste-là.
Fait qu'à ce stade-ci, j'ai quasiment le goût qu'on parte un pôle. D'après toi, Bernard Drainville va faire partie des gens qui restent ou des gens qui partent?
C'est vraiment une excellente question. Je suis très ambivalente sur la question de M. Drainville parce que quand il s'est lancé pour être candidat de la CAQ, moi, ce que j'entendais, là, c'est que c'était « OK, je me relance en politique, je veux être ministre, je veux être député ». Mais pas pour être chef. C'est ça qu'on entendait. Ouais, puis ça peut être surprenant. Mais il en avait déjà fait une en course à la chefferie, Bernard Drainville, en 2014. Et il faut savoir que les courses à la chefferie, là, c'est très, très difficile. C'est pas comme une campagne électorale normale. Parce que tes adversaires, c'est tes collègues, c'est tes amis, c'est des gens avec qui tu as travaillé. Ça peut être très, très, très drainant. Et c'est dur aussi, des fois, sur la réputation quand tu perds. C'est très dur pour les candidats. Ça a l'air de rien. Donc, est-ce qu'il va y aller? Moi, je pense qu'il réfléchit sérieusement. Je me demande à quel point on n'est pas dans un dédoublement si Simon-Jolin Barrette et Bernard Drainville se présentent plus nationalistes, laïcité, plus identitaires aussi. Je ne sais pas si on se divise pas le vote face à une Christine Fréchette plus économique, montréalaise, elle un petit peu plus, un peu moins identitaire de la CAQ. Peut-être que ça fait partie des réflexions, mais je n'ai pas entendu non plus d'appui public pour M. Drainville, contrairement aux deux autres.
Mais là, étrangement, il y a des gens qui ouvrent la porte. Il n'y a personne qui a confirmé qu'il était là. Il y a Simon Jolin Barrette qui commence à avoir des appuis. Lui, il n'a même pas dit « j'ouvre la porte ». Il est encore en mode « on n'entend pas parler de lui ». Il a salué François Legault.
Il a dit qu'il n'avait même pas commencé à réfléchir.
Exact.
Bien, écoute, c'est un peu dans le grand livre de la stratégie de course à la chefferie de lancer des appuis pour faire un peu semblant que les gens me réclament. Là, mais tout ça, là, c'est orchestré, c'est organisé, c'est pas des. C'est
pas Benoît spontané. Charette qui sort aujourd'hui pour Christine Fréchette. Ben, ils vont en sortir un par jour pour rester dans le narratif.
Ben oui. Puis tu as remarqué qu'ils ne sortent pas deux dans la même journée. Là. Fait que ça, c'était grainé là, pour s'assurer d'avoir une stratégie là, qui monte la sauce. Donc, tout ça, c'est bien, bien orchestré. Pour Simon-Jolin Barrette, on est quand même rendu à quelques appuis. Shirley Dorismond, qui est peut-être un peu moins connue du grand public, elle est députée à Longueuil. On a vu cette semaine le député de Vanier également, M. Asselin, Mario Asselin, qui est sorti pour l'appui. Il y a quelques appuis. Là, Suzanne Roy aussi, ministre, qui était ministre de la Famille là, avant d'annoncer qu'elle ne se représentait pas. Je ne sais pas si elle va changer d'idée, d'ailleurs, je pense pas, mais on verra. Donc, ça fait quand même pas mal d'appui pour Simon-Jolin Barrette, qui était vu un peu comme le dauphin naturel de François Legault.
Mais Antonine, de voir qu'il y a beaucoup de pans de mur qui partent en même temps, un peu avant ou un peu après que François Legault, il y en a beaucoup qui le voient comme étant « Ah, ben mon Dieu, la CAQ est en train de se désintégrer sous nos yeux. »
Surtout, c'est un bébé parti, là. Mais, ils n'ont pas une historique.
Mais en même temps, ça facilite pas un peu la tâche à ceux qui vont vont reprendre la CAQ de se distancer du vieux bilan parce que tous les vieux pans-murs partent les uns après les autres. Moi, je vois ça plus comme une opportunité pour les gens qui restent ou les gens qui vont embarquer dans le bateau que l'inverse.
Tu résumes très bien l'espèce de paradoxe. C'est que d'un côté, c'est sûr que ça donne une image de parti en fin de régime, puis tout le monde sac son camp parce que les sondages sont pas bons. Okay? Ça, c'est pas super. Mais en même temps, si on veut montrer un renouveau, face à un François Legault dont les gens étaient tannés, il faut le dire, là, ils n'étaient plus capables de le voir. Là. Fait que, il faut trouver comme le bon équilibre entre renouveau et une espèce de continuité ou de stabilité, parce que d'ailleurs, ça c'est un des éléments, on a un gouvernement qui est en poste, on s'en va en course à la chefferie, puis là, les agences de notation qui ont dit, il y avait un article dans Bloomberg, là, qui est un média financier, qui disait qu'on s'inquiétait de l'instabilité au Québec parce que le premier ministre avait démissionné, puis qu'on savait pas qui allait devenir premier ministre. Donc, il faut trouver une espèce d'équilibre entre les deux. Puis c'est vrai que s'il y a toutes les anciennes têtes d'affiche qui restent, ben, finalement, c'est un peu comme le même dilemme que le Parti libéral du Canada l'année passée.
Ouais, ouais.
Et finalement, il y a pas mal de monde qui ont changé d'idée et qui ont décidé de rester. Et Pierre Poilievre n'arrête pas de remettre ça sur le nez. Il dit, c'est encore toute la même gang. Donc, tu as raison de le souligner. En même temps, le problème, c'est qu'en contrepartie, on n'a pas de nouvelle candidature à annoncer là, pour l'instant. Là. Donc, tout ce qu'on voit, c'est négatif.
Antonine, tu pourras donner un biscuit à ton chien, il est exemplaire.
Bon chien.
Bon chien. Merci, Anto.
Bonne soirée.
Bye-bye. Antonine Iaccarini, analyste politique, évidemment, sur les derniers désistements du gouvernement. Sonia Lebel et Geneviève Guilbeault, évidemment, qui ont fait réagir pas mal dans les dernières heures. Dans les dernières heures et les derniers jours. Véro, c'est confirmé, oui. La saison du Massif est terminée.
C'est terminé. Le Massif de Charlevoix qui se voit contraint de mettre fin à ses opérations régulières. C'est qu'un peu plus tôt cet après-midi, aux environs de 16 heures, les syndiqués ont mentionné qu'ils refusaient l'hypothèse de règlement qui avait été soumise par un conciliateur. On refusait aussi la proposition de l'employeur de recourir à l'arbitrage. Puis en fin de semaine, la partie patronale avait mentionné que si on n'en venait pas à une entente, bien, on serait dans l'obligation de mettre un terme à la saison à partir de demain. On dit que les syndiqués continuent d'affirmer que la table de négociation est le seul endroit légitime pour régler le conflit, que l'employeur agit comme un roi en tentant d'imposer sa vision du monde par la pression et l'intimidation. Fait qu'on a décidé de mettre fin immédiatement à la saison. C'est triste pour les travailleurs, c'est triste pour la région, c'est triste pour les skieurs, les familles qui avaient l'intention de profiter de cet endroit magnifique pour le restant de l'hiver. C'est
et
triste
niveau,
pour le tourisme.
Au niveau de la business, je veux dire, c'est un timing abominable. Tellement. C'est un hiver qui a commencé plus tôt, qui risque de s'étirer plus longtemps. C'est l'hiver que tu peux pas manquer quand tu es dans la business du ski. Là. C'est malheureux. Malheureux, malheureux, malheureux. Un si beau coin,
ouais.
Un si beau secteur qui est tellement bien mis en évidence. Moi, c'est un des plus beaux visuels de la grande région, je trouve. Quand tu arrives en haut de ce secteur-là puis que tu regardes en bas, écoute, c'est...
C'est dans notre cours, là.
Oui, c'est à couper le souffle, ouais. Littéralement. C'est malheureux, malheureux. 16h51, puis eux autres, en plus, leur monte-pente fonctionnait bien, tu sais.
C'est ça qui est terrible.
C'est le plus
franchant. Il y a probablement des gens cet hiver qui ont comme fait, ben tant pis, je prendrai pas de chance avec le Mont-Saint-Anne, pourtant ça se déroule bien ces temps-ci, puis ils ont peut-être plus investi en se disant, ben, on va aller profiter du massif de Charlevoix.
Il y en a qui l'ont fait, c'est ouais. Sûr. Triste. Hey, la visibilité, c'est plus tough, là, depuis quelques minutes dans le ciel de Québec. C'est de la poudre qui se promène. Il y a des rafales de vent de 40 à 60 km/h et on vous le rappelle, c'est un 5 cm de neige qui est prévu au cours des prochaines heures. C'est Gravel dans le retour. On fait une pause rapide et on revient.
Pour joindre l'équipe de